VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, Trésor N'Djamena, bienvenue à notre journal. Conflit en Libye. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, accuse la France de soutenir le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui a lancé le 4 avril une offensive militaire sur Tripoli. Nous sommes surpris que la France ne soutienne pas notre gouvernement qui est démocratique, mais appuie un dictateur, a souligné mardi le Premier ministre al-Sarraj dans une interview au quotidien français Libération, après avoir tenu des propos similaires la veille dans le quotidien Le Monde. Au Soudan, le mouvement de contestation a intensifié ce mercredi la pression sur les dirigeants militaires en préconisant une énorme marche pour réclamer un transfert rapide du pouvoir à une administration civile. Nous appelons à une marche d'un million de personnes pour jeudi, a déclaré Ahmed Al-Rabia, un des leaders de l'association des professionnels soudanais SPA, fer de lance du mouvement déclenché le 19 décembre qui a abouti à la destitution le 11 avril du président Omar al-Bashir et qui réclame depuis le départ du conseil militaire de transition au pouvoir qui lui a succédé à la tête de l'État. Le mouvement de contestation a reçu hier le soutien de Washington alors que les dirigeants militaires à Khartoum résistent jusqu'à présent aux appels en faveur de transfert immédiat du pouvoir. Nous soutenons la demande légitime du peuple du Soudan qui réclame un gouvernement dirigé par des civils. Et nous sommes ici pour encourager les partis à œuvrer ensemble afin de faire avancer ce projet au plus tôt, a déclaré mardi à l'AFP Makila James, une responsable du département d'État américain chargé de l'Afrique de l'Est, en visite à Khartoum. Lors d'un sommet de l'Union africaine sur la crise soudanaise mardi au Caire, sous la houlette de l'Égypte, un appel a été lancé en faveur d'une transition pacifique et démocratique d'ici 3 mois au Soudan. Plus de détails avec Ekia Badou.
Les chefs d'État africains réunis au Caire appellent le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à assouplir sa position et à prolonger de 3 mois le délai accordé aux militaires soudanais. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait menacé le 15 avril de suspendre Khartoum si l'armée ne quittait pas le pouvoir d'ici 15 jours au profit d'une autorité politique civile. Le Conseil militaire de transition au Soudan a jusque-là résisté aux appels du mouvement de contestation à un transfert immédiat du pouvoir à une autorité civile. Ce conseil a toutefois déclaré lundi étudier une proposition des leaders de la contestation pour maintenir la pression. Des milliers de manifestants sont installés depuis plus de 2 semaines aux abords du quartier général de l'armée à Khartoum.
Au Tchad, le collectif contre la vie chère a exhorté les Tchadiens à manifester pacifiquement demain jeudi pour protester contre la pénurie de gaz qui affecte le pays depuis plus de 2 mois. Le point avec Eric Manirakiza.
Nous appelons les Tchadiens, jeunes femmes, enfants touchés par cette situation, à sortir massivement avec leurs bonbonnes de gaz et marmites vides jeudi dans les rues, a déclaré le porte-parole du collectif Dink Manayar Nelly Versinis. Lundi, le gouvernement avait pris un arrêté pour interdire la marche lancée par ce collectif, tout comme à la mi-mars, une première marche a déjà été interdite. Le collectif a donc décidé de maintenir la marche jeudi sur toute l'étendue du territoire. Depuis fin janvier, la raffinerie de Djarmaya, seule source d'approvisionnement en gaz du pays, tourne au ralenti. Le gouvernement avait autorisé l'importation de gaz du Nigeria ou du Cameroun, mais selon une source au ministère tchadien de l'économie, il s'agit d'un bras de fer entre le gouvernement et la société chinoise actionnaire de la raffinerie pour la renégociation de contrats qui est en cause. Conséquence, les besoins en énergie de la population ne sont toujours pas satisfaits.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, 216 victimes de trafic d'êtres humains, dont 157 mineurs, ont été secourues début avril lors d'une opération menée au Bénin et au Nigeria. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Interpol, l'Organisation internationale de coopération policière. Originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria et du Togo, les victimes ont été prises en charge par les services sociaux locaux et des associations. Ce coup de filet mené par une centaine d'officiers qui avaient reçu au préalable un entraînement spécifique de la part d'Interpol a également permis l'arrestation de 47 trafiquants présumés. Au Nigeria, une affaire qui défraie la chronique ces jours-ci, la condamnation à 12 ans de prison d'un activiste bien connu dans la lutte contre la corruption. Ibrahim Walla, alias Aïji Walla, inspecteur général Walla, a été reconnu coupable de diffamation la semaine dernière par la Haute Cour d'Abuja. Les précisions de notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
Pour lutter contre la corruption au Nigeria, le gouvernement fédéral avait demandé en 2017 à tout Nigérian ayant des preuves de dénoncer des cas de corruption dans leurs ministères et organisations. Un appel jusqu'ici très peu suivi par des Nigérians de peur d'être objet de poursuites judiciaires ou de représailles de la part des personnes mises en cause. Ibrahim Walla semble être la première victime. Le 26 septembre 2017, Walla, qui dirige l'Observatoire de l'Initiative de l'Action Citoyenne, avait publié sur sa page Facebook un message accusant Abdoulaye Mokhtar, le président de la commission en charge des questions du Hajj, le pèlerinage musulman, d'avoir détourné plus de 8 millions de dollars américains destinés à financer le voyage des musulmans à la Mecque pour le Hajj de 2017. Meurtri par ses propos, l'accusé décide de traduire l'activiste devant la Haute Cour fédérale d'Abuja, où son procès s'est déroulé pendant plusieurs mois avant sa condamnation. Kolawole Banwo du Sislac, une ONG locale, déplore l'absence d'une loi pour protéger ceux qui possèdent des informations sur les cas de corruption au Nigeria.
Nous avons toujours réclamé l'adoption d'une loi protégeant ceux qui dénoncent la corruption au Nigeria. Pas simplement une politique, parce qu'on peut abuser facilement d'une politique. Si vous avez une loi, cela protège les gens. Mais nous n'avons pas de loi. Donc ceux qui tentent de dénoncer les cas de corruption restent toujours vulnérables.
Pour le président et fondateur du groupe Follow the Money, suivre la trace de l'argent qui combat la corruption au Nigeria, cela doit servir de leçon aux autres activistes qui devront disposer de suffisamment d'informations et de preuves avant de dénoncer un cas de corruption. Hamza Laval.
Pour nous les activistes, cela doit nous servir aussi de leçon. Avant de dénoncer quelqu'un, il faut d'abord disposer d'informations concrètes avec des preuves vérifiables. Cela vous évite, en faisant votre travail, d'accuser les gens innocents.
L'affaire suscite aussi beaucoup de réactions au sein de la population et beaucoup affirment que l'emprisonnement de l'activiste Walla pourrait décourager d'autres Nigériens à dénoncer la corruption au sein de l'administration publique. C'est le cas de Lucy James.
Ce n'est pas du tout bien pour la bonne gouvernance que nous voulons promouvoir. Le monde nous regarde, cela est une réalité. L'Afrique tout entière a aussi son regard sur le Nigeria. Vous voyez, si quelqu'un dénonce un cas de corruption et qu'il est emprisonné pour 12 ans, cela veut dire que tout le monde doit rester sans rien dire.
La lutte contre la corruption reste le principal défi à relever pour le gouvernement nigérian. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Actualité aux États-Unis maintenant, la Maison-Blanche a de nouveau raté mardi la date butoir fixée par l'opposition démocrate pour obtenir les déclarations d'impôts du président républicain Donald Trump, laissant augurer une âpre bataille judiciaire. Le Trésor américain a repoussé aussi, mais sa décision finale sur cette demande qu'il qualifie de sans précédent. Le temps de consulter le ministère de la Justice, a expliqué le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, dans une lettre. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire au Trésor qui a sollicité un report ne perçoit dans l'action des démocrates du Congrès qu'une volonté de publier les déclarations d'impôts du président. C'est la deuxième fois que l'administration Trump repousse le délai fixé par les démocrates de la Chambre des représentants pour cette demande présentée le 3 avril par la commission chargée des questions de fiscalité. M. Trump est le premier président américain depuis Richard Nixon à refuser de divulguer sa situation fiscale. Fort de leur nouvelle majorité à la Chambre des représentants, les démocrates sont dotés de l'autorité de réclamer ces documents. Jamais une telle demande présentée par cette même commission n'a été rejetée par le passé, ont-ils souligné. Les démocrates vont désormais consulter leurs avocats, selon des médias américains, réclamant les 6 dernières déclarations de revenus annuels du président. Ils avaient d'abord fixé un ultimatum au 10, puis au 23 avril. M. Trump s'est depuis le départ montré réticent à livrer ses déclarations, affirmant qu'il faisait déjà l'objet d'un contrôle fiscal. Le président a été assez clair. Une fois que le contrôle sera achevé, il y songera, a déclaré un porte-parole de la Maison-Blanche mardi sur une chaîne de télé américaine. Il n'est pas disposé à le faire pour l'instant.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.